Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Kixa. Aujourd'hui, c'est Letty qui vous fait l'hôte et nous recevons Jeanne qui est comédienne et costumière et qui vient venir nous parler de son métier. Jeanne, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît ?
Je m'appelle Jeanne Peltier-Lanowski, je suis comédienne à Marseille et je suis aussi costumière et habilleuse en théâtre et en fiction audiovisuelle. J'ai commencé en faisant du théâtre. En tant que comédienne, j'ai fait un bac théâtre au lycée et ensuite je me suis rendue à Montpellier. J'ai fait le conservatoire à Montpellier en parallèle de la fac pendant 2 ans. Donc c'est la classe d'initiation qui est la classe d'initiation de l'École nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier pendant 2 ans. Donc c'est en gros une prépa aux écoles nationales. Et ensuite, je suis venue à Aix-en-Provence pour intégrer la compagnie d'entraînement, qui est une formation professionnalisante au Théâtre des Ateliers, dirigée par Alain Simon, où en gros on est en compagnie temporaire pendant 1 an, avec 9 autres personnes qu'on n'a pas choisies. C'est une école où t'as pas, comme au conservatoire, quelque chose où t'as un prof qui te donne un savoir. Il y a un pédagogue qui est Alain Simon qui te donne un cours par semaine avec ta promo. Et le reste du temps, c'est que des rendus que t'as à faire en public. Donc tu fais une présentation publique toutes les 2 semaines en travaillant avec des gens que tu n'as pas choisis. Donc temporairement, t'es une compagnie pendant 1 an. Donc c'est comme un essai de travail en compagnie, mais avec des gens que t'as pas choisis pendant 1 an. Avec des thématiques de travail que tu te donnes au fur et à mesure de l'année. Et c'était absolument incroyable. Et là, j'ai fait vraiment, OK, c'est ce métier-là que je veux faire absolument. Et c'est dans cette formation-là que je me suis rendu compte que c'était possible de ne pas être que comédienne, mais de faire du touche-à-tout. Parce qu'on doit réaliser un plan séquence. Okay. Avec les autres membres de notre compagnie, je n'avais jamais touché une caméra de ma vie. Et c'est avec une petite caméra de merde, hein. C'est juste pour te prouver que tu es capable de faire un objet artistique avec d'autres médias que juste toi. On doit écrire un texte que quelqu'un d'autre va jouer. On doit mettre en scène des monologues. On doit monter un spectacle pour enfants en compagnie, un spectacle tout public avec toute la compagnie. Enfin vraiment, on a tout un travail photographique aussi qui est fait. Et donc, il y a tout un rapport à l'esthétique aussi qui s'est posé, où je me suis dit, mais en fait, je me suis formée que à être comédienne pour l'instant, mais je crois que j'ai un attrait pour autre chose qui arrive, vraiment un attrait pour l'esthétique et pour le costume et pour qu'est-ce qu'on fait avec le reste, quoi. On a vraiment un moment qui s'appelle les écritures scéniques, qui est un moment qu'on doit créer une mise en scène d'une dizaine de minutes avec les autres membres de notre compagnie. Et je crois que pour moi, ça a été un vrai moment où je me suis dit, j'ai pas envie que ce soit juste ces meufs-là qui viennent habiller. J'ai travaillé qu'avec les meufs de la compagnie. Ouais. Mais c'était il y a longtemps, donc avant MeToo, largement. Et j'avais envie qu'il y ait autre chose que juste elle. Et en fait, je me souviens que déjà là, j'avais acheté des métrages de tissu et j'avais jamais cousu de ma vie quasiment, enfin, à part enfant un peu, quoi. Et j'avais coupé des grands trucs pour leur faire des espèces de toges. J'avais fait tout un travail avec la matière, la peinture. Enfin, donc il y avait déjà quelque chose qui arrivait à ce moment-là. Et en parallèle de la compagnie d'entraînement, j'ai continué l'université. J'ai fait une licence en théâtre et un master en dramaturgie et écriture scénique. Ouais. Et j'ai fini mon master en 2018. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à beaucoup travailler en tant que comédienne avec la compagnie Mémoire Vive. Qui n'existe plus aujourd'hui, qui a un nouveau projet qui s'appelle la FAC, Fabrique Artistique Culturelle et Citoyenne, mais qui était implantée sur Strasbourg, Marseille et après sur Dakar, où j'ai rencontré, et je suis rentrée dans cette compagnie grâce à Angie Picht, qui est metteur en scène à Marseille, avec qui je travaille toujours aujourd'hui. Donc c'est très chouette. C'est très singulier et en fait, donc Ian Gill, qui était le directeur artistique de Mémoire Vive, lui, il avait pour objectif la ligne politique de sa compagnie, qui était clairement du spectacle militant, en fait, c'était travailler sur les mémoires et particulièrement la mémoire coloniale, etc. En mêlant le théâtre, le rap, le hip-hop et la danse quoi en général. Donc ça donne des spectacles vraiment hybrides et en mêlant professionnel et je vais pas dire amateur mais jeune artiste ou artiste en devenir Et il y avait une vocation d'éducation populaire aussi, vraiment, donc de jouer gratuitement pour des gens qui ne vont pas au théâtre d'habitude parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers d'aller au théâtre. Donc il y avait vraiment
une démarche sociale
très très forte avec cette compagnie. Et Engie, je l'ai rencontrée. Donc c'est une compagnie qui vient de Strasbourg à la base, mais pour laquelle j'ai travaillé à Marseille. Et j'ai rencontré Engie à Strasbourg, mais peut-être genre 4 ans avant, quand j'étais à Montpellier, à un concours où elle a vu mes scènes de concours. Et quand on s'est... Et j'ai pas été prise à ce concours, évidemment. Et quand on s'est recroisés à Aix-Marseille, en fait, elle m'a appelée quand elle a eu une carte blanche auprès de Mémoire Vive pour mettre en scène un spectacle qui s'appelait « Mise en veille ». Elle m'a appelée pour que je travaille avec elle et j'étais hyper touchée. Je me suis dit, ok, en fait, peut-être que j'ai raté ce concours, mais je crois que je ne l'ai pas raté complètement. Il enfin, y a quelque chose de, très chouette qui s'est passé.
Est-ce que ça a été un frein pour toi dans ta carrière d'avoir la double casquette costumière-actrice ?
J'ai l'impression qu'au contraire, il y a quelque chose qui communique bien. Parce que du coup, je me suis retrouvée donc, à travailler beaucoup en théâtre et à commencer à créer des costumes de théâtre pour Mémoire Vive, etc. Et est venue à un moment la nécessité pour moi de faire mes heures, justement. Donc, je faisais de la figuration. Et en faisant de la figuration, je me suis rendu compte de ça, qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient pas que comédiens. Mmh. Ou que voilà, il y a des gens qui sont figurants professionnels et c'est très bien pour eux. Je crois qu'on en a besoin parce qu'on a besoin de ces gens-là pour les films. Et je me suis dit, mais tiens, marrant, il y a des techniciens aussi qui font ça. Mais je pourrais pas être technicienne, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et en fait, c'est une copine assistante cam qui m'a dit, bah, viens faire de l'habillage, tu fabriques tes costumes toute seule dans ton atelier pendant le Covid, il n'y a rien qui tourne en théâtre, viens faire du cinéma. Et j'ai fait, bon, bah, s'il y a un truc qui passe, pourquoi pas, mais j'y connais rien. Et donc, je me suis retrouvée là-dedans avec cette peur de me dire « Mais putain, je suis comédienne, je fais de l'habillage, je vais me faire griller, il faut pas que j'en parle, il faut surtout pas que je le dise. » Mais en fait, pas du tout. Et en fait, là, typiquement, j'ai été habilleuse là, sur un gros projet, un 6 x 52 minutes là, dans le sud. Et le chargé de figu qui était sur le film avec moi, il sait très bien que je suis comédienne parce que il connaît mon visage de Marseille, quoi. Et en plus, j'ai un collectif à Marseille qui s'appelle le Pick-up, qui est un collectif d'acteurs audiovisuels. Okay. On s'entraide vachement entre nous. On a fait un showcase, donc on a présenté au mois de mai des petits morceaux de travaux qu'on a effectués tous ensemble à des réals, directeurs de casting, etc. de la région. Et ce directeur de casting-là, en l'occurrence, est venu et en fait, il m'a appelé pour un casting après, que en plus j'ai eu, donc je suis ravie. Alors que j'ai été habilleuse avec lui pendant 3 mois. Donc il y a un truc qui... C'est ok, c'est normal en fait que les comédiens de la région fassent d'autres choses, quoi. Ne soient pas que comédiens. Et je crois qu'au-delà de c'est normal, pour moi, hyper personnellement, je crois que c'est nécessaire dans mon équilibre de travail. Je pense qu'il y a quelque chose de... Ça que j'ai toujours eu, je pense, mais qui est renforcé de être partout. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'être que comédienne. Moi, être juste comédienne, c'est très agréable, je pense. Mais ça peut me faire rire un ou deux jours, mais au bout d'un moment, je pense que ça me lasse. Enfin, il y a quelque chose de... J'ai besoin de faire d'autres choses. J'ai besoin d'avoir un regard sur l'objet qu'on est en train de créer quand on est en spectacle vivant. Juste ma partition, en fait, honnêtement, je crois que ça m'intéresse pas tant.
Tu parles pas mal de spectacle vivant et j'ai l'impression aussi que être comédienne, le rapport au comédien dans le spectacle vivant et le rapport au comédien dans l'audiovisuel, c'est quelque chose de très différent.
Ah, mais ça, c'est clair. Et ça, c'est hyper... Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup questionnée quand j'ai commencé à faire de l'habillage venant uniquement du théâtre à la base en tant que comédienne. J'avais fait que des projets alternatifs en audiovisuel et sinon je viens du théâtre, vraiment théâtre. Et donc je suis arrivée pour la première fois vraiment avec un poste dans l'audiovisuel en tant qu'habilleuse et je me disais « Ah, mais c'est ça être comédien ? Ah bon ? Mais moi je suis pas comédienne alors ?» Et je me suis dit « Je crois que j'ai pas envie d'être comédienne, je vais être quelqu'un qui fabrique du théâtre. » Qui fait du théâtre.
En fait, c'est quoi qui t'a fait dire « je suis pas comédienne » en fait, en termes de...
C'est que, en fait, tout dans l'audiovisuel, au début, je me disais « mais putain, c'est quoi ces princesses ? Qu'est-ce qu'ils font ? On leur apporte tout sur un plateau et c'est normal. Et en fait, machin te tient tes clopes et bidule te tient ton truc et machin te tient ton machin. » Enfin bref, et du coup, t'es un peu là genre « ok, princesse. Et en fait, quand tu rentres dans le processus, tu dis, OK, tout le système est comme ça. Et en fait, c'est un système qui est ultra hiérarchisé, justement pour pas qu'il y ait l'ingestion qui te dise, non, mais moi, je suis pas d'accord avec ce plan, pour pas qu'il y ait machin qui dise ça. Chacun a une place hyper précise. Je sais pas si c'est comme ça dans toutes les compagnies, mais j'ai l'impression que moi, beaucoup des compagnies avec lesquelles j'ai travaillé, t'as une partition, en fait. Quand t'es comédien, c'est très proche du musicien, sauf que ton corps est ton instrument, mais c'est une partition qui est millimétrée avec des zones de flou peut-être et des endroits où t'as quand même de la liberté. Mais il y a un truc qui est assez dingue quand tu joues pas mal un spectacle. Des fois, d'un coup, t'as un trou, tu te dis, mon Dieu, j'ai un trou, mais ton corps fait quelque chose. Et c'est le bon truc. Et en fait, tu l'as tellement répété que ton corps a compris ça. Ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, en audiovisuel ou quand tu joues en audiovisuel, rien n'est répété, en fait. Enfin, t'as des projets sur lesquels t'as un peu de répétition, mais tout est de l'instinct et du moment, quoi.
D'ailleurs, moi, j'en ai rencontré aussi des comédiennes et des comédiens qui refusaient de travailler en cinéma tant le rapport au métier était différent, quoi.
Eh ben ouais, moi, j'ai eu ça pendant longtemps parce que j'avais l'impression qu'en ciné, je jouais pas. Déjà, au niveau du temps d'attente, mais c'est aussi de... il n'y a rien à faire. En fait, il y a quelque chose... Je me disais, mais je ne peux pas bouger les mains, je ne peux pas bouger trop mes yeux, il ne faut pas que je fasse trop de grimaces. Ouais, OK, mais en fait, j'ai l'impression que je ne joue pas. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui, pendant des années, moi, m'a vachement rebutée sur le jeu caméra, de me dire, non, j'ai l'impression que je ne joue pas. Moi, j'ai besoin de sentir mon corps. Enfin, j'ai vraiment un rapport... Le travail, en plus, qu'on fait avec Angie, c'est vraiment un travail de théâtre physique, quoi. Donc, on est vraiment dans une corporalité très, très importante. Et je me disais, mais du coup, en audiovisuel, ça ne va pas marcher. Et en fait, si. En fait, tu t'adaptes et tu fais des choses toutes petites. Et en fait, tu ressens beaucoup plus les choses que ce que tu les montres. En théâtre, tu les ressens aussi. C'est pas juste j'exagère mes gestes et machin, mais il y a quelque chose du ressenti aussi. Mais t'as une partition qui est hyper précise. Là, c'est un peu du one shot, surtout quand t'es embauché pour un truc télé. T'as un ou deux jours de tournage. C'est plus instinctif et donc du coup, t'as vraiment une nécessité, je pense, à être connecté à ce que tu ressens. Et donc, j'ai compris ça en faisant des projets alternatifs, notamment avec Pablo Pinasco. Si t'écoutes ça, Pablo, je te kiffe. Qui est un réalisateur avec lequel j'ai bossé sur une web-série qui s'appelle I Am Mia, qui est incroyable et qui vraiment m'a fait prendre conscience de ça. En fait, ce qui l'intéressait, c'est ce que j'étais. Et pas ce que je faisais ou ce que je... Et juste être moi en disant les mots que lui a écrits. Et ça m'a donné un truc où, du coup, en habillage, ça m'a aidé à me placer. Mmh. Où okay. Je me suis dit, OK, en fait, quand je fais de l'habillage, moi, mon taf, en fait, sur 100% de taf, 80%... c'est du social et 20% c'est les fringues en fait. Et 80% c'est mettre les acteurs, s'ils arrivent dans un mood où ils n'ont pas du tout envie de jouer, faire en sorte qu'ils se détendent. T'es la première personne qu'ils voient le matin quand t'arrives. Maquilleuse, coiffeuse et habillage, le HMC c'est les premières personnes que les comédiens voient quand ils arrivent le matin. S'ils sont de bonne humeur, il faut les garder de bonne humeur. S'ils sont de mauvaise humeur, il faut les mettre de bonne humeur. Et en gros ton taf c'est ça et c'est pas... C'est un vrai échange, en fait. T'as un rapport d'échange qui est chouette. Et du coup, mon métier de comédienne nourrit vachement ma position d'habilleuse parce qu'il y a quelque chose que je comprends, entre guillemets, de l'endroit où ils sont, de fragilité et de doute, en fait. Tu les vois, d'un coup, quand t'es dans un HMC et qu'il y a un comédien qui se met à tourner sur lui-même, il n'est pas du tout comme ça quand il arrive sur le plateau devant les techniciens. Mais ça, c'est un secret entre lui et toi. Que tu vas pas donner aux autres parce que c'est privilégié. Et en fait, moi, je trouve qu'à partir du moment où un comédien est capable d'être dans un HMC et de tourner en rond sur les mêmes, c'est que tu as gagné en tant qu'habilleuse, c'est qu'il est dans un endroit où il est en confiance, quoi. Ouais. Et du coup, il y a quelque chose, moi, de cet ordre-là que j'aime dans ce métier-là et de me dire, OK, mon taf, c'est de faire en sorte que les comédiens soient le plus... disposés à jouer, qui se sentent bien et qui se sentent en confiance. Et en vrai, ça c'est un secret, il ne faut pas trop le dire, mais il y a des fois des raccords que tu vas faire que tu n'as pas besoin de faire particulièrement. Mais tu vois que le comédien se tape un coup de panique et tu sais au bout d'un moment de relation que tu deviens une personne qui calme. Du coup, tu vas faire un raccord. Un petit faux, un raccord qui, en fait, ce serait pas vu. Oui. Mais je pense qu'après, il y en a, t'en as vraiment besoin. Et après, il y a aussi le pendant de ça qui est très compliqué. Et qui est les habilleuses. Bon, je parle surtout des habilleuses parce que c'est celle que je connais le plus. Mais habilleuse, maquilleuse, coiffeuse, c'est pareil. Maquilleur, coiffeur et habilleur, d'ailleurs, aussi. S'il y en a. C'est pas que des métiers de meuf. Et il faut pas être trop sur le dos des acteurs non plus, sinon ça les bouffe. Enfin, vraiment, il y a un truc de comment se placer qui est hyper intéressant. Mais il y a quelque chose aussi dans le. D'avoir la double casquette comédienne habilleuse et d'avoir été figurante avant de faire de l'habillage. Quelquefois, hein, j'ai de la chance, j'ai vraiment pas eu besoin de faire énormément de figuration pour avoir mon statut, même quand j'étais que comédienne. Donc, j'ai vraiment beaucoup de chance. Mais il y a un rapport entre la figuration et les équipes techniques de cinéma qui est quand même, je trouve, parfois très très complexe. Où j'ai quand même entendu des régisseurs dire, les appeler les pique-assiettes. Et tu te dis, mais t'es au courant que le mec que t'appelles le pique-assiette, tu vas aller le voir en concert samedi prochain, c'est pas où, parce que c'est juste que lui, il a choisi de faire un projet artistique sur lequel il galère à bouffer, en fait. Et donc, du coup, il fait ça. Et en fait, je pense que je me fais un peu chevalière de ça, parce que je fais la même chose. C'est juste que je suis plus figurante, je suis habilleuse. Et c'est pas une nécessité. En soi, j'ai pas, entre guillemets, besoin de faire de l'habillage pour avoir mes heures. Mais c'est un choix que j'ai fait à un moment de vraiment faire ça, parce que ça me plaît. Et ça me rend dingue que les figurants soient maltraités. Et on te dit, oui, mais il y a toujours des cons. Oui, mais il y a toujours des cons, comme partout, comme dans l'équipe technique. C'est toi le con de l'équipe technique, du coup, de penser ça. Enfin, tu vois ce que je veux te dire ?
T'as des souvenirs, justement, de figurations que t'aurais faites en tant que figurante qui t'ont plu ?
C'était trois nuits d'affilée, donc voilà, dans une maison qui était censée être à Monaco, mais qui était tournée à Marseille. Dans la haute, quoi, la haute bourgeoisie monégasque. Donc on était tous en talons, robes, costards, machin. Et trois nuits avec 80 jeunes Marseillais dans une énorme baraque. En vrai, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs de figure, parce qu'en plus c'était vraiment c'était du 17h, 6h du matin, quoi. Donc c'est des énormes journées, quoi. Enfin, des énormes nuits, et c'était vraiment chouette. Et là, je me suis dit, putain, habillé et tout, quel enfer. Et en fait, pas du tout. Ça avait l'air hyper chouette de faire ce truc-là. Et ça fait partie des filles où je me suis dit, je crois que je serais mieux en habillage qu'en figure, quand même, même si je me suis bien marrée. Et là, j'ai eu le droit à un truc, ça, j'en parle. Il y a un comédien sur un habillage. Là. Quand j'étais en habillage, il y a un comédien qui est venu me voir en me disant merci. Parce que j'ai vu que t'avais vu que j'étais en panique et tu m'as juste regardé pour me détendre et ça a marché. Alors juste merci. Ouais, et quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ok, c'est le plus beau cadeau qu'un comédien pouvait me faire. Ouais. De te dire, ok, il a vu que j'avais vu, que j'avais vu, qu'il avait vu. Que... Bref, je l'ai regardé, j'ai fait... Parce que c'était un moment où tout le monde était en tension. C'est un tournage qui était plutôt calme, mais là, c'était une grosse scène. Il y avait des enfants, il y avait machin, il y avait beaucoup de choses. Il y avait une cascade, bref, et du coup, il y avait beaucoup de choses, et du coup, tout le plateau était un peu en ébullition. Et le comédien est arrivé pour une journée de tournage, donc tu débarques au milieu d'une équipe où tout le monde est un peu comme ça, alors que c'est jamais le cas d'habitude, et il était, mais je l'ai senti un peu en panique, et je l'ai juste regardé, parce que j'aurais été en panique à sa place aussi, en fait. Et ça l'a vachement détendu, et d'avoir ce merci-là après, moi, ça m'a fait mon tournage, en fait.
Est-ce qu'on pourrait profiter des dernières minutes de l'émission pour que tu nous parles un peu de tes projets, de là où on peut te voir, de choses que tu es en train de faire, que tu as déjà fait? Par exemple, là, tu parlais de I Am Mia. Est-ce que tu pourrais nous pitcher un peu de quoi il s'agit?
Alors, I Am Mia, c'est un projet audiovisuel donc, qui est réalisé et écrit par Pablo Pinasco. Qu'on a construit comme un puzzle. En fait, c'est un projet qui est sorti en puzzle sur Instagram où on a tourné les... En fait, à force de rien pouvoir faire parce que Covid et puis pas de budget, on s'est dit, Pablo s'est dit avec Blandine Papillon, qui est une des actrices qui fait aussi partie de mon collectif, là, le Pick-up, ils se sont dit, tournons quand même, faisons des trucs et on verra bien. Donc ils ont pris ce scénario que Pablo avait écrit et ils ont tourné un peu des morceaux et ils ont trouvé d'autres acteurs, donc moi, dont moi je faisais partie, etc. Et on a tourné comme ça, un peu quand on pouvait, comme on pouvait, des morceaux en forme de puzzle, quoi. Et donc c'est sorti en vignette sur Instagram au fur et à mesure qu'on tournait, avec le numéro de la scène. Donc t'as la scène 5 qui est sortie, puis après t'as la scène 72, et après t'as la scène 4. Et ça y est, tout est sorti, donc maintenant c'est en version chronologique normale sur YouTube. Il y a 5 épisodes, je crois, de 20 minutes. Mmh. Ou 6 épisodes de 20 minutes, 5. Mais c'est chouette, on a été au Festival de la Fiction de La Rochelle l'année dernière, on a été sélectionnés là-bas avec ça, donc on était trop contents.
D'ailleurs, pour des gens qui ne connaissent pas le projet, est-ce que tu leur conseillerais d'aller plutôt d'abord voir les versions chronologiques longues ou de revenir voir le projet en puzzle sur Instagram ?
Ah, je sais pas. Peut-être se mettre l'eau à la bouche en regardant des petites pastilles et après aller regarder les 5 épisodes que je trouve absolument dingue. Enfin, l'univers de Pablo est absolument dingue et voilà, ça m'a vraiment plu. Donc il y a ça. Là, je vais tourner dans une série France Télé, mais je sais pas si je peux trop le dire. Donc je le dis, mais tout doucement. Même si je sais pas trop ce que je peux dire ou pas. Donc voilà, je pense que je peux le dire. Donc ça, c'est chouette. Et on, avec la compagnie L'Argile, donc qui est la compagnie d'Energy Pict, on monte un texte d'un auteur hongkongais qui s'appelle Pat Toyan, et le texte s'appelle Une brève histoire du futur. Et on termine la création là, au mois de novembre, on fait notre première à Briançon. On a 4 dates à Briançon, on joue 2 fois par jour, je crois le 9 et le 10 novembre. Et on joue dans la région, on joue à Aix-en-Provence le 14 février, jour de la Saint-Valentin, facile à retenir. Pareil, deux dates dans la journée. À partir de 15 ans, et qu'est-ce que c'est comme théâtre? C'est du théâtre, l'auteur lui se définit du réalisme magique.
Wow.
Donc c'est hyper particulier, tu suis la temporalité, il y a deux temporalités différentes, il y a la temporalité qui a priori se passe en 2040, qui est la temporalité de la femme du dehors, que j'interprète, qui doit ramener une boîte qu'elle tient entre ses mains au Théâtre National de la Capitale. Donc elle est dans le sud du pays et elle doit remonter dans le nord, alors que tout le monde fait le chemin inverse. Et sur la route, elle ouvre ses souvenirs de ses parents, qui eux ont fait le chemin inverse. Donc on suit la temporalité des parents, qui se situe à peu près en 2018, qui ont été dans le nord du pays et qui vont vers le sud du pays. Et sur sa route, elle croise donc les souvenirs de ses parents, mais elle croise aussi une dame araignée, un homme cafard, etc. Donc il y a vraiment une dimension en fait, qui est très proche de Miyazaki, je pense, dans l'écriture. Et voilà, et je fabrique aussi les costumes pour ce spectacle.
Ok.
Voilà, donc c'est la double casquette sur le même projet. Donc c'est une autre gestion encore des temporalités de quand est-ce que je suis comédienne et quand est-ce que je crée les costumes. Donc c'est très particulier. Mais c'est chouette. Et après, un showcase à venir aussi avec le collectif Le Pick-up. Donc... on va présenter un peu notre travail à directeur de casting, réalisateur, réalisatrice de la région le 9 décembre au Fakir Club qui est une salle qui est sur le boulevard d'Athènes.
Okay.
Voilà.
Alors pour finir, il y a une question que j'aime bien poser aux comédiennes, aux comédiens. Je me rends compte qu'il y a certains acteurs à qui on donne toujours le même genre de rôle. Donc du coup, j'aime bien leur demander qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, quel type de rôle, quel type de projet ils ont envie de faire.
Waouh, c'est hyper dur. En fait, là déjà, avec ce spectacle sur la brève histoire du futur, avec L'Argile, j'ai l'impression que je touche à quelque chose que j'ai jamais fait avant. Sur cette notion de réalisme magique, j'ai l'impression que ça crée un théâtre de genre. Alors que c'est contemporain et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose du genre qui existe. On n'a pas de théâtre d'horreur en France, par exemple. Il n'y a pas de théâtre il y a de la magie, mais il n'y a pas du théâtre magique. Il y a quelque chose de... Voilà, ce genre de choses-là n'existe pas trop, et je crois que c'est quelque chose qui m'intrigue vachement. Il n'y a pas de théâtre de science-fiction. Mais j'ai l'impression que ce spectacle-là, il peut être un peu hybride là-dedans. Et ça me plaît bien. Mais en rôle pur, Je sais pas. Je crois que je compose. Je sais pas. Proposez-moi des choses et je verrai. Mais j'ai l'impression que j'aime bien jouer les méchantes. Et que je fais pas trop les méchantes. J'ai un peu trop une tête de gentille, je crois.
Peut-être un jour.
Peut-être un jour. Ouais, je crois que j'ai un peu trop une tête de gentille et de. Ouais, je suis un peu sympathique, quoi. Et donc. Ouais, je crois que les méchantes, ça m'irait bien, si je devais. Ça me plairait.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir fait cette émission avec nous, Jeanne.
Mais merci à vous, vraiment.
Merci à tous de l'avoir suivi. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode de Kiksa. Salut.
Salut.
Je suis le descendant de Fakoly. Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Chicken Jaffa Coli, sur la 88, 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 sur la